Bienheureux Pierre, prince des apôtres, fort de cette confiance pour l'honneur et la défense de ton Église, de la part du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, en vertu de ta puissance et de ton autorité, j'interdis à l'empereur Henri, qui s'est élevé contre ton Église avec une insolence inouïe, le gouvernement de tout le royaume des Teutons et de l'Italie. Je relève tous les chrétiens du serment qui lui ont prêté ou qui lui prêtent. Je défends que toute personne lui obéisse comme à un roi. Extrait de la bulle d'excommunication du pape Grégoire VII envers l'empereur germanique en 1076.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 25 janvier 1077, un homme gravit à pied et en robe de bure le chemin qui mène au château de la comtesse Mathilde de Toscane à Canossa, accompagné de quelques cavaliers. Il vient demander au pape Grégoire VII, qui séjourne dans le château, la levée de son excommunication qui le met au ban de la société chrétienne. Après 3 jours de pénitence à la porte de la puissante forteresse, par un temps hivernal, le pénitent est admis en audience par le pontife. Ce pénitent est l'un des princes les plus puissants de l'Occident chrétien. Il s'agit du roi des Romains, empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri IV de Franconie. Cette impressionnante scène n'est qu'un des épisodes de la lutte politique que se livrent l'Empire et la papauté pour la primauté spirituelle et politique en Italie et en Allemagne. Au début du XIe siècle, l'Église entreprend un long processus de réforme afin de se défaire de la domination que les pouvoirs laïcs font peser sur ses structures et ses institutions. Jusqu'alors, il est de pratique courante que les prélats, les abbés, tiennent leur autorité spirituelle et temporelle d'un seigneur laïque. La simonie, c'est-à-dire le trafic d'objets sacrés et de charges ecclésiastiques, est exercée par une grande partie du clergé, au scandale d'une partie du peuple chrétien. Dans une Rome dominée par une aristocratie souvent à la solde du pouvoir de l'empereur germanique, il n'est pas jusqu'à la papauté qui ne soit dominée et objet de scandale. Jugez cet exemple. En 996, l'empereur Othon III intervient pour favoriser l'accession au trône pontifical de son cousin Brunon de Carinthie, qui prend le nom de Grégoire Saint. Celui-ci est chassé par une révolte populaire, mais il est finalement rétabli par la force, et 2 ans plus tard, celui qui lui avait succédé, Jean XVI, est promené dans Rome, à l'envers, juché sur un âne. Face à cette situation scandaleuse pour la chrétienté, une réaction s'organise à partir du pontificat de Nicolas II, élu en 1058. Le pape entame une action contre la simonie, contre le mariage et le concubinage de bien des prêtres, contre l'attribution des charges ecclésiastiques par les princes laïcs. Désormais, les conditions d'un affrontement direct entre l'empereur et le Saint-Siège sont réunies. Celui-ci prend une tournure vive avec l'élection du cardinal Hildebrandt sous le nom de Grégoire VII. Moine à Cluny, abbé de Saint-Paul-Orlémur à Rome, légat et cardinal de Léon IX, il est un conseiller influent d'Alexandre II, à qui il succède le 22 avril 1073. Il amplifie une politique de réforme à qui il donne son nom, la réforme grégorienne. Il cherche à imposer le célibat aux prêtres lors d'un synode en 1074, déclare invalide tout acte accompli par des ecclésiastiques mariés, lutte avec acharnement contre les scandales provoqués par la simonie. De plus, il affirme la prémauté du pape sur les princes laïcs, y compris l'empereur du Saint-Empire, qui, selon la formule du pape, est à la lune ce qu'est le soleil. La 12e thèse du Dictatus Papae autorise d'ailleurs le pape à déposer l'empereur. De son côté, l'empereur Henri IV, qui est monté enfant sur le trône du Saint-Empire, cherche à s'opposer frontalement à la politique de Grégoire VII. L'occasion d'un conflit ouvert est la vacance d'un siège épiscopal à Milan. Henri IV nomme le nouvel évêque de Milan sans en référer aucunement au pape. Celui-ci envoie une missive au souverain, le menaçant d'excommunication. En réaction, un synode impérial réuni à Worms en janvier 1076 proclame la déchéance de Grégoire VII. C'est donc dans ce contexte que le pape Grégoire VII décide l'excommunication. La sanction de l'excommunication a des conséquences lourdes pour la chrétienté. Les sacrements sont refusés à l'empereur et à ses fidèles. L'épiscopat et le clergé se détournent peu à peu du souverain au nom de l'autorité reconnue au pape. Les princes et les seigneurs sont déliés de leur devoir d'obéissance. En octobre 1076, les princes allemands, de plus en plus inquiets de la situation, pressent l'empereur à la soumission. C'est donc dans ce contexte que l'empereur accepte de faire le voyage vers la péninsule italienne pour obtenir le pardon. Après 3 jours de pénitence devant le château de Canossa, celui-ci est reçu par le pape le 28 janvier 1077 en présence de la comtesse Mathilde de Toscane, qui, tout en étant partisan des réformes au sein de l'Église, sert d'intermédiaire. Au prix de sa soumission à la discipline pontificale, Henri IV voit son excommunication levée. Le triomphe de Grégoire VII est cependant de courte durée. L'empereur, comme tous les princes chrétiens, comprend fort bien que la volonté pontificale est à la fois de rétablir une discipline interne à l'Église, mais également de faire du successeur de Pierre un suzerain des rois et des princes. En 1080, un nouveau conflit aboutit à une seconde excommunication. Cette fois-ci, Henri IV ne vient pas à Canossa. Il réunit un synode des évêques impériaux qui proclame la déchéance de Grégoire VII et élit l'archevêque Guibert de Ravenne sous le nom de Clément III. Sur le plan idéologique, le pouvoir impérial s'appuie sur les juristes des universités de Padoue et de Bologne, pour qui l'empereur germanique est l'héritier du droit romain, qui en fait un souverain absolu, protecteur du peuple chrétien. En 1083, l'empereur organise une descente militaire en Italie. Le 21 mars 1084, il entre dans Rome, alors que Grégoire VII se réfugie au château Saint-Ange. Henri IV est sacré en la basilique Saint-Pierre par Clément III. 2 mois plus tard, le chef normand Robert Guiscard, un des soutiens du pape, intervient à Rome et oblige Henri IV à abandonner la ville éternelle. Mais les troupes normandes se signalent par des exactions en saccageant en particulier la région du Latran et le quartier autour de l'église Saint-Clément. Avec de tels alliés, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Face à l'hostilité de la population romaine qui lui reproche d'être l'allié des pillards normands, Grégoire VII quitte la ville pour Salerne, au sud de Naples, où il meurt le 25 mai 1085, entouré de quelques fidèles. Cette querelle des investitures trouve son épilogue en 1122 par le concordat de Worms, qui aboutit à un compromis où se reconnaît l'influence du théologien français Yves de Chartres. L'empereur germanique renonce à accorder l'investiture ecclésiastique symbolisée par la crosse et l'anneau et se contente de l'investiture temporelle symbolisée par le sceptre. En Allemagne, l'empereur peut assister à l'investiture ecclésiastique qui a lieu après l'investiture temporelle, à la différence des terres italiennes et bourguignonnes où elle a lieu après. Le concile du Latran de 1123 ratifie les termes du concordat. Celui-ci est sans doute plutôt favorable à l'Église au sein de laquelle la réforme grégorienne s'impose progressivement. Mais apparaît alors un nouveau débat qui va traverser le XIIe et le XIIIe siècle, celui tournant autour des ambitions théocratiques du pouvoir pontifical qui souhaite faire des divers princes de la chrétienté des vassaux de la papauté. Ce conflit ne trouvera son épilogue qu'aux alentours de 1300, lors du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel.